cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission 100% locale Cultivons notre jardin. Cette émission vous est présentée par Nat et Jackie et nous vous parlerons de jardinage au naturel, mais pas que. Alors nous avons prévu sur cette émission Cultivons notre jardin également une rubrique courrier et questions des auditeurs afin de vous permettre de vous exprimer et de nous poser des questions se rapportant aux thématiques abordées. Donc cette rubrique c'est la vôtre, elle ne peut qu'être collaborative. Alors nous vous proposons soit de nous envoyer un petit mail pour vos questions à redac@48fm.org ou bien sur la page Facebook de 48FM et nous vous répondrons au cours des prochaines émissions.
Bonjour à tous, je suis jardinier professionnel à la retraite et j'interviens pour les associations Jardin Nature 48 et Verger de Lozère.
Voilà, merci Jackie. Eh bien là, je suis là pour te tenir compagnie principalement, sinon tu t'ennuies, n'est-ce pas ?
Absolument.
Et puis si je peux vous amener quelques informations liées à la protection de notre environnement, j'en profiterai bien entendu. Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui pour cette deuxième émission de Cultivons notre jardin ?
Eh bien, après ce qui me semble une importante information sur le glyphosate et les abeilles, nous aborderons aujourd'hui un très vaste sujet qui, je crois, représente un souci pour beaucoup de jardiniers. Il s'agit de la taille, et je devrais plutôt dire les tailles.
Nous développerons plus tard. Merci Jackie et nous retrouverons en toute fin d'émission notre rubrique calendrier pour vous annoncer les activités et autres événements qui auront lieu par ici, pas très loin, se rapportant au jardin ou à son actualité.
En toute fin d'émission, nous pourrons vous parler des jours et horaires de diffusion, vous indiquer comment transmettre vos impressions, qu'elles soient favorables ou non, et bien sûr, les questions que vous aurez envie de nous poser, j'espère.
Qui sont la ruche et la reine, elle butine dans la plaine, de retour un peu plus tard, chargée de nectar.
Alors Jackie, tu nous as parlé du glyphosate en début d'émission. Je rappelle que le glyphosate est le principal composant actif, on va dire, du célèbre herbicide Roundup. On a de nouvelles informations à son sujet. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît ?
Eh bien oui, j'ai entendu dans La Tête au Carré, l'émission de Mathieu Bidard, en début d'après-midi sur France Inter, une communication sur une étude américaine. Et j'ai retrouvé sur lemonde.fr le texte suivant. Le glyphosate présente aussi un risque pour les abeilles. Des chercheurs américains de l'Université du Texas à Austin mettent en évidence un impact de l'herbicide sur la flore intestinale des butineuses, rendant celles-ci plus sensibles aux infections. Ces nouveaux travaux ajoutent une nouvelle cause possible au déclin accéléré des abeilles domestiques, en montrant que l'abondance des espèces principales du microbiote est réduite chez les abeilles exposées au glyphosate, les rendant ainsi plus vulnérables aux diverses maladies.
Oui, et ce que tu nous dis, Jackie, nous pose du coup une question un peu plus large. Si le glyphosate agit sur le microbiote intestinal des abeilles, on peut se demander ce qu'il en est sur la flore intestinale humaine, notre fameux deuxième cerveau. Et donc les néonicotinoïdes qui viennent d'être interdits en France et le frelon asiatique ne sont pas les seuls responsables du déclin des abeilles, visiblement. Et si les abeilles disparaissaient ?
On en parle souvent, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien informé des conséquences d'une telle disparition.
Effectivement, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire quelques infos pour resituer le problème. 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles sauvages. 30% de ce que l'on trouve dans nos assiettes est lié à la pollinisation. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Yves Lecomte, directeur à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Sur la table du petit déjeuner, sans les abeilles, pas de confiture, pas de jus d'orange, pas de café. Ou du moins, pas au même prix, ni à une telle quantité. Car sans la pollinisation, les rendements sont bien moindres et les fruits de moins bonne qualité. En fait, il faudrait surtout trouver des mesures compensatoires, c'est-à-dire qu'il faudrait polliniser à la place des abeilles. Alors ça, il y a déjà des endroits dans le monde où ça se fait, notamment sur les contreforts de l'Himalaya, où l'espèce sauvage d'abeilles qui pollinisait les pommiers a disparu. Alors les Chinois le font à la main, au plumeau. Il y en a d'autres qui ont tenté de polliniser les amandiers par la force du vent provoquée par les pales d'un hélicoptère. C'est raté, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour dire que quand même, quand les abeilles ne sont pas là, ça devient très compliqué de produire de la nourriture. Et à un coût hallucinant, s'il faut utiliser des hélicoptères, bon, a priori, ça ne fonctionne pas. Mais je fais confiance à l'être humain pour trouver des solutions les plus farfelues de toute façon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande comment arriver à nourrir la planète. On peut se demander, du coup, si on est sur la bonne voie quand on ne défend pas plus les abeilles. Bon, revenons à nos moutons, Jackie. On peut aborder la taille maintenant. La taille, hein, pas la tonte.
Le sujet est tellement complexe et copieux, qu'une seule émission ne suffira sans doute pas. Je vais essayer de décomposer tout cela en termes simples, en grands chapitres, par saison et par végétaux. Des milliers de livres ont été publiés et malgré cela, ce sujet revient toujours quand j'anime des ateliers pour Jardin Nature 48 ou pour Verger de Lozère. C'est l'occasion pour les auditeurs de bien voir pour mieux comprendre et même pratiquer sous les yeux d'une personne compétente, nécessaire pour rassurer au moment du passage à l'acte.
Oui, parce qu'on ne taille pas des arbres tous les jours. Ça fait partie des gestes du jardin qui se font finalement assez rarement.
Voilà, c'est rare et c'est impressionnant parce qu'on a toujours peur à partir du moment où on va faire une certaine chirurgie. On taille donc avec des outils comme le chirurgien.
Jusqu'où tailler.
Voilà. Alors la taille proprement dite s'applique sur les arbres fruitiers ou les arbres d'ornement. Elle peut aussi s'appliquer sur les haies et sur les arbustes. Pour ce qui est des plantes vivaces, nous parlerons plutôt de nettoyage, de division de touffes ou autres. Pour l'ensemble des arbres, nous pouvons, encore une fois, faire des tailles de formation ou de restructuration. Pour les arbres fruitiers à pépins, nous parlerons également de tailles de fructification.
Parce que ça va leur permettre de faire plus de fruits.
Absolument. Les arbres fruitiers... Alors, il y a une petite nuance, les arbres fruitiers à pépins, non seulement on va pouvoir leur faire plus de fruits, mais c'est à cause de leur faculté à cicatriser sur des petits bouts de branches. On y reviendra. On peut faire une taille de fructification sur les arbres à pépins, mais on ne peut pas sur les arbres à noyaux. Mm-hmm. Ça va être je vais vous le développer un petit peu plus loin.
Merci.
Pour les arbustes, les tailles se feront pour les former, les réduire, accentuer leur floraison ou leur production de fruits comestibles, pour nous ou pour les animaux qui nous entourent.
Très bien. Alors, on commence par la taille de formation. Qu'est-ce que ça veut dire, taille de formation ?
Alors, la taille de formation, elle s'applique aux arbres et arbustes d'ornement et aux arbres fruitiers. En fait, elle consiste à structurer le végétal de façon à lui donner une forme ouverte. Elle servira aussi à l'empêcher de monter trop haut, à lui donner la forme désirée ou à supprimer les plus vieux bois pour les arbustes, par exemple. Elle se pratique de préférence à l'automne, sauf pour les arbustes à floraison printanière qui seront taillés en vert, c'est-à-dire quand ils ont les feuilles. Sauf pour le cerisier qui se taille à la récolte des fruits. Et enfin, sauf pour le noyer qu'il conviendra de couper en août si toutefois cela s'avère nécessaire. Je ne dis pas il faut tailler les noyers, ne nous méprenons pas. Mais si je suis obligé de le faire, par exemple, parce qu'une branche déborde chez le voisin, eh bien c'est plutôt au mois d'août que je pourrais le faire. Il est préférable de faire cette taille tous les ans, voire tous les 2 ans au plus, afin que l'arbre n'ait que de petites plaies à cicatriser.
Tu nous as aussi parlé de taille de restructuration, Jackie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, s'il te plaît ?
Alors, la reprise en main des arbres fruitiers abandonnés depuis plusieurs années n'est pas une chose aisée et il faudra leur faire une taille dite de restructuration. On aura soin de ne pas tailler trop court dès le départ. Quand je taille les branches d'un arbre fruitier à noyaux, je dois faire une coupe perpendiculaire à cette dernière sur la ride située à l'aisselle de la branche. Je ne laisse pas de chicot dépasser, ce qui ne sera pas le cas pour les arbres fruitiers à pépins. Une première technique consiste à réduire simplement entre un quart et un tiers des branches chaque année sur 3 ou 4 ans. Ceci évite une repousse anarchique et trop abondante, les petites branchettes sur l'ensemble de l'arbre. En parallèle, on pourra supprimer toutes les branches qui poussent vers l'intérieur et empêchent à terme le soleil de pénétrer pour favoriser la photosynthèse. Une autre technique consiste à réduire quelques branches, environ un tiers à un quart de la ramure chaque année pendant 3 à 4 ans, en prenant soin de supprimer les branches intérieures et en laissant 3 yeux sur chaque branche coupée. Pour les fruitiers à pépins, entendons-nous bien. Une branche qui va être coupée en laissant un petit moignon va pouvoir cicatriser si c'est un arbre fruitier à pépins. Il ne pourra pas le faire si c'est un arbre à noyaux. Attention, les yeux sont latents et pas toujours visibles. C'est pourquoi je conseille de laisser les départs de branches de 3 à 5 cm seulement et ne pas vous faire compter les yeux.
Merci Jackie. Donc après, on vient de voir la taille de formation, la taille de restructuration pour les vieux arbres. Il nous reste donc la taille de fructification, c'est bien ça ?
Et c'est bien ça. Alors la taille de fructification, elle se pratique après la taille de formation, au printemps de préférence. Et elle est applicable, comme je vous le disais plus haut, seulement aux arbres fruitiers à pépins.
Les pommiers, les poiriers.
Et les cognassiers, à la limite.
Allez.
Elle consiste à tailler le végétal de façon à contrarier les courants de sève, afin de favoriser la fructification. Alors, on appelle contrarier le courant de sève, en fait, quand la sève, au lieu d'aller en ligne droite jusqu'au bout d'un rameau, au fur et à mesure qu'on va le tailler, la sève va être obligée de circuler de façon perpendiculaire, puis encore perpendiculaire. Plus elle va avoir de mal à se déplacer dans la branche, plus elle va mettre des bourgeons à fleurs. Alors donc, en laissant un morceau de branche avec trois yeux au moment de la taille, la plante repartira sur plusieurs bourgeons. Et ainsi, la sève se répartira différemment et l'arbre réagira, donc comme je vous le disais, en produisant des bourgeons à fleurs. Les palmettes que certains auditeurs connaissent ou autres formes particulières subiront une taille de fructification à chaque printemps.
Mais pour les auditeurs qui connaissent pas les palmettes, tu peux nous expliquer s'il te plaît ?
Alors ce sont des arbres qui ont des formes en W, voire ce qu'on appelle des formes palissées qui vont se mettre le long d'un mur. C'est donc des arbres qui ont un faible développement, qui vont avoir été greffés sur un porte-greffe à faible développement. Je te propose que nous reparlions de ce sujet lorsque ce sera le moment opportun.
Alors, on peut aussi tailler les arbustes, les rosiers grimpants, les haies. Raconte un peu, Jackie.
Alors, effectivement, comme je disais au début, le sujet est vaste. Alors, essayons de traiter ça en rapport avec la saisonnalité. Car l'intérêt d'avoir une émission pérenne, comme on l'a, c'est qu'on va pouvoir traiter chaque sujet au bon moment. Pour les haies qui sont constituées de végétaux persistants, la meilleure période de taille, c'est le mois d'août. Si j'ai une haie d'arbustes variés dites paysagères, je taille individuellement, au bon moment, chaque arbuste. Mais je vais y revenir tout de suite. Pour les rosiers, qu'ils soient grimpants ou arbustifs, je peux les réduire à l'automne, mais je ne les taillerai qu'au printemps, quand je ne craindrai plus les fortes gelées. Il faudra mieux un peu trop tard qu'un peu trop tôt. La taille des arbustes, là c'est un vaste sujet que je te propose de traiter lors de notre prochaine émission, si tu le veux bien.
Oui, donc nous continuerons sur la taille des arbustes sur la prochaine émission. Et maintenant, nous allons passer au calendrier des activités de jardinage du coin.
Qui sont-elles ? Où vont-elles ? Elles font la cirée de miel. Qui dans la ruchée, la reine, elle butine dans la plaine. Un peu plus tard, chargé de nectar.
Alors le samedi 27 octobre, à la salle de la mairie du Malzieu, il y aura un atelier intitulé « Prévenir et guérir les maux d'hiver par l'aromathérapie ». Elle vous est proposée par Jardin Nature 48.
Donc le dimanche 11 novembre, vous pourrez trouver un atelier de taille d'automne organisé toujours par Jardin Nature 48. Et cette fois, il aura lieu à Maisonneuve près d'Ispagnac.
Alors, mardi 13 novembre à 20h30, à la salle des associations de Mende, un atelier de préparation de sol avant l'hiver est organisé par Jardin Nature 48.
Et là, c'est vraiment le bon moment, encore une fois. Donc, émission qui aura une suite, hein, qui se poursuivra la prochaine fois sur les tailles des arbres, des arbustes. Voilà, n'hésitez pas à réagir en nous laissant vos messages, vos questions par courriel, donc toujours à redac@48fm.org ou sur la page de 48FM. Et nous vous laissons avec la petite chanson de fin d'émission. Alors, cette fois-ci, c'est à nouveau la chanson du dimanche, parce qu'on aime bien, hein, Jackie. Cette fois-ci, ils vont nous chanter le super pouvoir d'achat. Et toi, t'en fais quoi, Jackie, de ton super pouvoir d'achat?
Eh bien, moi, mon super pouvoir d'achat, je m'en sers quand je peux, pour sauver les abeilles, par exemple. À bientôt.
Ah, Maya te dit merci. À bientôt, Jackie. Au revoir, tout le monde.
Si j'avais le pouvoir d'achat, j'attraperais un objet sans fil. J'achèterais un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterai un stylo, je t'achèterai un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mes pieds. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher. Tout en achetant du lait acheté. Donnez-moi le pouvoir d'achat. D'achat, je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts, parce que les impôts c'est bien fait. Je m'achèterai un barbecue avec un allume-barbecue, je m'achèterai un rat de Véler pour protéger mon barbecue.
Puis je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans, et la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la, la 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 la, la 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 la.